vous avoue que cette semaine a été plus remplie que ce que j'avais imaginé avec le déménagement. Et du coup, et puis en plus en ayant les affaires là-bas, et puis là, et puis donc j'ai pas réussi à préparer vraiment de prédication à proprement parler. Mais donc j'ai hésité un moment à mettre un enregistrement simplement, et je m'attendais à ce qu'on soit pas beaucoup, et puis donc. Je suis parti comme ça. Puis finalement, hier, j'ai quand même pris un peu de temps pour réfléchir à un passage que j'avais lu dernièrement et sur lequel j'avais un peu réfléchi. Donc j'ai mis en ordre un peu mes pensées. Donc je vais simplement vous partager ça. Ce sera pas long, beaucoup plus court que d'habitude. Ce sera beaucoup plus simple. Mais j'espère que ce sera aussi bénéfique pour chacun. Vous vous rappelez que dimanche passé, on a parlé du jugement dernier. Le thème que David a choisi pour nous dire au revoir, c'était un peu spécial, mais voilà, il a bien expliqué que, effectivement, c'est un sujet dont on parle peu dans les églises, même les églises évangéliques en général, parce qu'on n'aime pas se rappeler qu'on est pécheur devant un Dieu juste, un Dieu saint. Et pourtant, et il l'a bien rappelé aussi dimanche passé, c'est un enseignement essentiel de la Bible, parce que déjà, on le trouve partout, le fait que Dieu est juste, qu'il va demander des comptes un jour, mais c'est essentiel aussi parce que la bonne nouvelle du salut, du fait que, et c'est ça qu'on prêche, que Dieu est un Dieu d'amour qui s'est révélé à nous en Christ, qui a envoyé son Fils pour nous faire grâce, pour nous ramener à lui, nous réconcilier avec lui, cette bonne nouvelle du salut, ça ne peut être une bonne nouvelle que si on se rappelle, enfin qu'à condition qu'on se rappelle de quoi on est sauvé, que si on se souvient qu'il y a une mauvaise nouvelle d'abord, qu'un jour Christ reviendra pour juger les vivants et les morts, qu'on devra tous paraître devant son trône, que des livres seront ouverts. Vous vous rappelez ce passage qu'on a lu dans l'Apocalypse? Des livres seront ouverts où sont inscrits nos œuvres, nos actions, nos pensées. Et on devra rendre des comptes pour cela. Des livres seront ouverts et un livre sera ouvert, qui est le livre de vie où sont inscrits les noms de tous ceux qui ont, par la grâce, choisi de fuir la colère à venir et qui échapperont au jugement. C'est ce que la Bible nous dit de faire, fuir la colère de Dieu à venir. Comment? En fuyant dans les bras de Dieu, hein, par la repentance et par la foi en Christ. Et donc ce matin, ce qu'on va faire simplement, brièvement, c'est réfléchir à comment fuir cette colère à venir en réfléchissant à ce qu'est la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance d'un point de vue biblique? Et pour faire cela, on va lire ensemble un passage dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament. Le livre des Juges, chapitre 10, les versets 6 et suivants. Donc le livre des Juges, chapitre 10, à partir du verset 6. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils rendirent un culte aux Baals et aux Astartès, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des Ammonites et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des Ammonites. Ils malmenèrent et maltraitèrent les Israélites cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les Israélites qui étaient en Transjordanie, dans le pays des Amoréens, en Galaad. Les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm, et Israël fut dans une grande détresse. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant: Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons rendu un culte aux Baals. L'Éternel dit aux Israélites, des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins, des Sidoniens, Amalek et Mahon vous ont opprimés, et lorsque vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous, vous m'avez abandonné, et vous avez rendu un culte à d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez, Criez vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous sauvent au temps de votre détresse. Les Israélites dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Les Ammonites se groupèrent et campèrent en Galaad et les Israélites se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple, les princes de Galaad, se dirent les uns aux autres, quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les Ammonites? Il sera chef de tous les habitants de Galaad. Je lis encore quelques versets parce qu'on apprend que cet homme, je demande quel est l'homme qui nous délivrera, c'est Jephté, le Galaadite, qui était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galaad qui avait engendré Jephté. La femme de Galaad lui enfanta des fils. Les fils de cette femme, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephté prit la fuite loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephté. Ils faisaient campagne avec lui. Et on va lire juste encore les versets 32 et 33, où on a un peu la fin de l'histoire. Verset 32, « Jephté passa chez les Ammonites pour les combattre, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il les battit durement depuis Aroer jusque vers Minit, 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. » Voilà, jusqu'ici ça nous donne l'ensemble de cet épisode-là. Le livre des Juges, vous le savez sans doute, c'est un livre un peu particulier dans la Bible parce qu'il nous parle d'une période particulière aussi dans l'histoire du peuple de Dieu. C'est un moment charnière. Tout ce qui précède nous parle de comment Dieu a choisi Abraham et puis ses descendants pour en faire son peuple et puis les amener jusque dans la terre promise. Ça, c'est ce qui précède de Genèse jusqu'à Josué. C'est comme ça que ça se termine. Le livre de Josué, c'est la conquête de la terre promise. Et puis tout ce qui suit nous parle de comment Dieu a choisi, a mis des rois à la tête du peuple d'Israël. Des rois, malheureusement, qui progressivement se sont de plus en plus éloignés de Dieu, jusqu'à ce que Dieu décide d'envoyer le roi selon son cœur, c'est-à-dire Jésus-Christ. On va y revenir. Mais donc, le livre des Juges, on est là, on est dans cette période-là, et c'est bien le problème dans le livre des Juges. C'est ce qu'on apprend, c'est qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est, si vous avez lu le livre des Juges, c'est un refrain qui revient souvent, en particulier à la fin du livre. L'auteur nous dit « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et donc vous avez des cycles de désobéissance en fait, où ça commence avec le peuple qui se révolte contre Dieu, qui l'abandonne, qui se met à adorer des idoles, ce qui conduit le peuple à la ruine. Dieu envoie des ennemis pour les punir, jusqu'à ce que le peuple se repente et crie à l'Éternel pour que Dieu les délivre. Et lorsque le peuple se repent, Dieu envoie un rédempteur, un juge, pour les délivrer, jusqu'à ce que le peuple se révolte à nouveau, et ainsi de suite. Et vous avez ces cycles comme ça. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans notre passage ce matin. On a la révolte, on a la ruine qui s'ensuit, on a la repentance. On va s'arrêter donc un peu plus longtemps sur ce point-là, et finalement la rédemption. Donc tout d'abord, la révolte. Regardez le verset 6 encore une fois. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils rendirent un culte au Baal, et comptez juste avec moi combien on a d'idoles ici. Ils rendirent un culte au Baal, et aux Astartès, au dieu de Syrie, au dieu de Sidon, au dieu de Moab, au dieu des Ammonites et au dieu des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Donc ils abandonnent Dieu et ils se tournent vraiment dans toutes les directions, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ils vont partout vers les pays étrangers pour chercher d'autres dieux à adorer. Il y a 7 idoles qui sont mentionnées ici. Et vous savez que le 7 dans la Bible, c'est souvent le chiffre de la totalité. Donc 7 divinités qui sont nommées, comme pour nous dire, si vous voulez, que tout ce qui pouvait se trouver en termes d'idole dans le monde ancien, vous pouviez le trouver en Israël à l'époque. L'infidélité du peuple de Dieu et arriver à son comble. Ils sont plus loin que ce qu'ils ont jamais été. C'est-à-dire n'importe quelle idole est préférable à l'Éternel. Alors est-ce qu'il vous semble que c'est différent aujourd'hui? Est-ce qu'il vous semble qu'il en va autrement du peuple de Dieu aujourd'hui? Pas vraiment. Les idoles ont changé, bien sûr, mais tout ce qui se trouve en termes d'idoles dans le monde, dans la société, on le retrouve dans l'Église aussi. Parce que qu'est-ce qu'une idole? Finalement, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie. Ça peut être plein de choses. Ça peut être le succès, ça peut être l'argent, ça peut être la famille, ça peut être le désir d'être bien vu. Finalement, une idole, c'est tout ce vers quoi on se tourne pour trouver un sens à notre vie, un sentiment d'être important, d'être en sécurité. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que pour nous aussi, peu importe dans quelle direction on se tourne, un peu à l'image d'Israélite qui vont au nord, au sud, à l'est, peu importe dans quelle direction on se tourne, il y a toujours des choses qui deviennent plus importantes que Dieu dans notre vie. Voilà une personne qui est extrêmement, qui est importante dans votre vie, qui compte beaucoup pour vous. Ça peut être un collègue que vous admirez ou un professeur qui tout d'un coup se met à vous ignorer ou vous dit des paroles blessantes. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Est-ce que vous mettez en colère? Est-ce que dans une colère noire, vous explosez? Ou est-ce que peut-être plutôt, ça peut être le cas, vous fondez en larmes, vous êtes dévasté par le fait que cette personne qui compte pour vous ne vous considère plus ou vous a dit des paroles blessantes. Si c'est le cas, ça montre que cette personne est devenue une idole pour vous parce que ce qu'elle pense de vous compte plus que ce que Dieu pense de vous. Ou voilà qu'on vous a confié une tâche à faire, vous avez une responsabilité au travail ou à la maison, et vous savez que vous ne l'avez pas accomplie aussi bien que vous l'auriez aimé. Ça nous arrive assez souvent d'avoir des choses qu'on doit faire et on arrive au bout et on n'est pas satisfait du résultat. Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que c'est une paix, une sérénité en Dieu? Parce que vous savez que tout vient de Dieu et que s'il permet que vous n'avez pas fait cette chose aussi bien que vous auriez pu le faire, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour vous, il a une raison pour ça. Ou est-ce que c'est de la frustration? Que vous êtes frustré de ne pas avoir réussi à faire ce que vous vouliez, que vous n'arrivez pas à dormir tellement vous êtes frustré de ce que. Si c'est le cas, c'est que votre succès ou le regard que les autres portent sur votre travail, sur vos capacités, est devenu une idole. De nouveau. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça, n'est-ce pas, de choses qui deviennent plus importantes que Dieu dans notre vie, que ce soit la carrière, que ce soit notre moralité, le fait d'apparaître bon, d'apparaître quelqu'un de moral devant les autres, que ce soit la famille, etc. Mais ce que ça nous montre simplement, c'est que ce n'est pas différent pour nous aujourd'hui que ce que ça l'était pour les Israélites qui se révoltent ici contre Dieu. C'est la première chose, la révolte. La deuxième étape dans le cycle, c'est la ruine. Parce que la révolte mène à la ruine. Regardez le verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des Ammonites, c'est-à-dire entre les mains de ceux des nations dont ils adoraient les idoles, justement. C'est-à-dire leur idolâtrie se retourne contre eux. Et il nous a dit que Dieu les vend entre les mains des Philistins et des Ammonites, c'est-à-dire ils deviennent esclaves de leurs idoles. Et là encore, c'est pareil avec nous. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas à la première place dans notre vie, peu importe quoi que ce soit, quelle que soit l'idole qui ait pris sa place, elle va finir par nous rendre esclaves et à terme nous conduire à la ruine. Je prends un exemple de nouveau. Si ce qui compte pour vous, si ce qui vous donne un sentiment de valeur et d'importance, c'est justement votre succès dans ce que vous faites, ou le regard que les gens portent sur votre travail, la qualité de ce que vous faites, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera jamais assez bien. Ce sera jamais assez bien, et puis il faudra toujours faire mieux, et vous serez toujours frustré parce que vous n'aurez jamais fait assez bien, il faudra faire plus, il faudra faire mieux, mais ce sera quand même jamais assez bien, et puis la frustration va finalement vous dévorer petit à petit. C'est un esclavage. Ou je prends un autre exemple. Si ce qui compte pour vous, c'est votre moralité, si c'est ça qui vous donne un sentiment d'assurance et de sécurité face aux gens, le fait qu'ils pensent de vous comme étant une bonne personne, un bon chrétien, etc., qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez commettre un péché un peu plus grave, un peu plus apparent, un peu plus évident, un peu plus scandaleux peut-être. Qu'est-ce qui va se produire? Vous allez simplement tout faire pour le couvrir. Donc, mensonge après mensonge, et puis vous allez être paralysé par le fait que peut-être une personne va pouvoir découvrir ce que vous avez fait. Là encore, c'est une forme d'esclavage. Vous allez être esclave de votre idole. Et c'est exactement ce qu'on voit ici avec les Israélites. Mais le pire, le plus grave dans cette révolte et cette ruine qui s'ensuit, le plus grave, c'est pas tant qu'on souffre d'être esclave de ces idoles, nous, mais c'est qu'à force de servir nos idoles, on ne sert plus Dieu. Donc, on n'honore plus Dieu comme on le devrait, qu'on ne glorifie plus Dieu par notre vie. Et Dieu nous demande de nous repentir de ça. Et c'est exactement ce qui suit, c'est la repentance. C'est la troisième étape ici, les versets 10 à 16. La révolte mène à la ruine. Et Dieu nous demande de nous repentir, verset 10. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant: Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons rendu un culte au Baal. Et l'Éternel dit aux Israélites, et là encore, comptez une fois avec moi: Des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins, des Sidoniens, Amalek et Mahon vous ont opprimés. Et lorsque vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Vous avez vu, remarquez que Dieu donne sept des nombreux ennemis dont il avait délivré son peuple, ce qui fait écho bien sûr aux sept nations dont Israël avait pris les idoles, avait choisi d'adorer les idoles, comme pour dire: à chaque fois que vous m'avez désobéi, je vous ai pardonné, je vous ai délivré. À chaque fois que vous êtes révolté de moi, je vous ai délivré. Mais maintenant, c'est terminé, verset 13. Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez rendu un culte à d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez, criez vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous sauvent au temps de votre détresse. Les Israélites dirent à l'Éternel: Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Alors qu'est-ce que la repentance dans ces versets-là? Qu'est-ce que la repentance? C'est une question importante à se poser parce que contrairement à ce que j'ai pu laisser entendre dans l'introduction, on ne se repent pas une fois dans notre vie chrétienne et puis c'est terminé pour le reste de notre vie. Oui, à un moment on se repent une première fois, au début de notre vie chrétienne, on se détourne de notre ancienne vie pour nous tourner vers Dieu et donc là il y a un changement total d'orientation et ça c'est une fois pour toutes, ça ne change plus, on était dans une mauvaise direction opposée à Dieu et maintenant on est dans la bonne direction, mais au moment où on se repent et on vient à Dieu, on ne devient pas parfait du jour au lendemain, on continue de pécher et Dieu nous demande de continuer à nous repentir de nos fautes. Alors qu'est-ce que la repentance? Et il y a trois éléments qui ressortent ici et que j'aimerais vous donner dans ces versets 14 et suivants. Premièrement, c'est l'aveu de nos péchés à Dieu sans manipulation. C'est la première chose. C'est l'aveu de nos péchés à Dieu sans manipulation. Regardez le verset 15 encore une fois. Les Israélites dirent à l'Éternel: Nous avons péché. Ça peut sembler évident de dire que se repentir, c'est avouer ses péchés à Dieu. Mais c'est important de le préciser parce que lorsqu'on pêche, malheureusement, plutôt que de reconnaître qu'on a péché et que c'est parce qu'on est pécheur, c'est ce que nous sommes par nature, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve toutes sortes d'excuses, n'est-ce pas? On va dire, mais c'est pas moi, ça me ressemble pas. Je me suis mis en colère, mais ça me correspond pas. J'étais hors de moi, presque comme si on subit la colère ou comme si on était victime de notre tempérament. Plutôt que de reconnaître que nous sommes pécheurs et que lorsqu'on commet un péché, ça correspond exactement à ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes par nature. Et donc c'est la première chose que on doit comprendre, c'est ça la première chose qu'on doit comprendre par rapport à la repentance, c'est l'aveu de nos péchés à Dieu sans manipulation. Et j'ajoute juste cette petite expression sans manipulation parce que on confesse parfois nos péchés de manière un peu manipulatrice. C'est-à-dire, non pas parce qu'on est réellement attristé du mal qu'on a fait, et parce qu'on a conscience de l'horreur de l'offense qu'on a faite à Dieu, mais plutôt parce qu'on a envie que Dieu nous délivre des conséquences de notre faute. Alors, vous pouvez penser à un ado, par exemple, à qui ses parents auraient confié les clés de la maison pour faire la fête avec ses amis pendant le week-end. Ils lui font confiance que tout va bien se passer, ils partent en week-end, et puis les choses se passent mal, la fête tourne mal, ils salissent toute la maison. Et lorsque les parents rentrent, eh bien, ils punissent leur fils, ils lui empêchent d'inviter de ses amis à nouveau, de sortir avec ses amis. Il a deux réactions possibles, cet adolescent face à ses parents. Il peut regretter ce qu'il a fait, venir vers ses parents et dire oui, effectivement, c'était pas bien ce que j'ai fait, mais simplement parce qu'il se dit mince, je vais pas pouvoir sortir avec mes amis et profiter dans les jours qui viennent. Ou il peut avoir du dégoût par rapport à ce qu'il a fait, être dégoûté de lui-même d'avoir en fait trahi la confiance de ses parents. Et c'est deux choses très différentes, vous voyez. Pensez au fils prodigue dans la parabole de Jésus. Il prend l'héritage, la part de l'héritage qui lui vient, il part loin de son père, il va dilapider sa fortune, et puis il se retrouve dans la pire des situations possibles. Il n'a plus d'argent, il se retrouve à garder les cochons, à les nourrir, alors que lui-même n'a rien à manger. Mais lorsqu'il rentre en lui-même et qu'il réfléchit à retourner auprès de son père, voilà ce qu'il dit. Il dit, je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est pas qu'il rentre et qu'il se dit, Père, je regrette ce que j'ai fait, c'était effectivement pas bien, j'ai plus rien à manger maintenant, est-ce que je peux avoir un bout de pain? Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est pas juste qu'il regrette les conséquences de ses fautes. Et se repentir, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas regretter le mal qu'on a fait parce qu'on souffre les conséquences, parce qu'on en souffre les conséquences. Mais c'est avoir du dégoût pour le mal qu'on a fait, et parce qu'on en mesure l'horreur, qu'on voit que c'est une offense qu'on a faite à Dieu. Écoutez juste ces paroles du roi David au psaume 51, et vous verrez que c'est un exemple ici pour nous. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Il ne vient pas demander à Dieu de le délivrer des conséquences de sa faute, et pourtant il y en avait, des conséquences à son péché qu'il avait commis à Bathsheba, des conséquences terribles pour sa famille. Il vient dire, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Là encore, un exemple de nouveau de quelqu'un qui n'est pas en train de se dire, mais c'est pas moi, j'ai fait ça, mais c'était pas moi. Mais qui dit, non, je suis pécheur, et ce péché que j'ai commis, c'est exactement ce que je suis. Voilà un exemple pour nous, donc, de quelqu'un qui fait l'aveu de ses péchés à Dieu sans manipulation. C'est le premier aspect de la repentance. Le deuxième aspect qu'on voit ici, toujours verset 15, c'est que la repentance, c'est aussi l'appel au pardon de Dieu sans condition. l'appel au pardon de Dieu sans condition. Regardez la suite du verset 15. Les Israélites dirent à l'Éternel, nous avons péché. C'est la première chose. Mais ils ajoutent, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. C'est-à-dire, ils demandent pardon à Dieu en reconnaissant qu'il n'y a pas de condition à remplir pour obtenir ce pardon. Ils disent, traite-nous comme il te plaira. Ils savent que Dieu peut les traiter comme il lui plaît et que si Dieu accorde son pardon, ce sera forcément de manière inconditionnelle. C'est-à-dire qu'ils viennent devant lui, ils n'ont rien qui justifie ce pardon que Dieu pourrait leur donner. Daigne nous délivrer, c'est ce qu'ils disent aussi. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment se rappeler nous aussi dans la repentance, que le pardon que Dieu nous donne, il nous le donne sans condition. Parce que vous le savez certainement comme moi, souvent lorsque on pèche, malheureusement, plutôt que de venir immédiatement à Dieu pour confesser nos fautes, demander pardon, nous repentir, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On passe un bon moment d'abord à nous sentir bien misérables, à nous sentir bien coupables, comme si Dieu allait plus facilement nous pardonner une fois qu'on a payé en fait pour la faute qu'on a faite en ayant souffert de notre culpabilité. Plutôt que de venir immédiatement à Dieu en sachant moi j'ai rien qui justifie mon pardon, on va d'abord essayer de payer un peu pour essayer de rattraper ce qu'on a fait en nous sentant un peu coupable devant Dieu. Mais c'est faux. Dieu veut que nous fassions appel immédiatement à son pardon sans condition. Et c'est là encore ce qu'on voit dans les psaumes. Écoutez ce que David, le roi David dit dans le psaume 32. Il dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Vous voyez ce qu'il dit? Tant que je me suis tu, et que j'avais mon péché entre Dieu et moi, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Et puis il dit, qu'il dit plus tard, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Voilà un exemple de nouveau d'un appel au pardon de Dieu sans condition. Plutôt que de se taire et de gémir dans notre péché et de croire qu'on peut payer, acheter le pardon de Dieu de cette manière-là, venons à Dieu pour faire appel à son pardon. C'est le deuxième aspect. Et puis le troisième qui reste, si vous êtes toujours en Juges chapitre 10, c'est le verset 16 cette fois. On a vu donc la repentance, c'est l'aveu de nos péchés à Dieu sans manipulation, c'est l'appel au pardon de Dieu sans condition, et troisièmement, c'est l'abandon des passions autres que Dieu sans discussion, verset 16. Ce qu'on voit ici, les Israélites ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. C'est-à-dire, ça ne suffit pas, la repentance ne se limite pas à l'aveu de nos péchés, et à l'appel au pardon de Dieu, mais on doit abandonner le péché. On ne peut pas simplement demander pardon et continuer dans la même voie. Il faut que Dieu prenne la place que les idoles occupent dans notre cœur, et on ne peut pas juste chasser les idoles par la simple force de notre volonté, il faut que quelque chose les remplace, une passion plus forte. Non. Les idoles, c'est des choses qu'on aime, auxquelles on s'accroche. Et pour qu'on puisse réellement s'en débarrasser, il faut qu'une autre passion plus forte que ça prenne la place. Il faut que nous ayons une vraie passion pour Dieu. Et le seul moyen pour nous d'avoir une vraie passion pour Dieu, c'est de considérer ce qu'il a fait pour nous, son amour et la rédemption qu'il a accomplie pour nous. Et c'est le dernier point donc, de ce cycle. On a vu la révolte du peuple qui mène à la ruine, la repentance que Dieu attend de nous, et finalement, la rédemption, parce que lorsque le peuple de Dieu se repent, et on le voit ici dans ces versets, lorsque le peuple de Dieu demande pardon, Dieu entend, il envoie un rédempteur pour délivrer son peuple de ses idoles et pour pardonner ses péchés. Et ici, ce rédempteur, c'est un juge, c'est Jephté. On a lu juste quelques versets qui le concernent. Et on a simplement appris de lui qu'il est un enfant illégitime. Il est le fils d'une femme prostituée. On a appris qu'il a été chassé par les siens à cause de ça. Et que des hommes de rien se sont rassemblés autour de lui pour faire une bande. Et c'est lui que Dieu a employé pour délivrer. Et en fait, si on lisait la suite, on verrait que c'est quelqu'un de très imparfait, plein de fautes, plein de défauts, Jephté. Je ne vais pas vous raconter la suite, vous connaissez peut-être, c'est quelqu'un. Voilà. Et en fait, au fil du livre, tous les juges, au fur et à mesure, tous les juges que Dieu emploie sont des juges qui sont de pire en pire, plein de fautes, de faiblesses, d'imperfections. Et Dieu les emploie malgré tout, mais par leurs imperfections, ils montrent quoi? Ils montrent le besoin qu'on a d'un roi parfait, d'un roi juste, d'un roi qui obéit en toute chose à la parole de Dieu. Et c'est ce roi que Dieu a envoyé dans la personne de Jésus. Et si vous réfléchissez, vous pouvez vous rappeler que Jésus, quelque part, ressemble à Jephté. Il était un enfant illégitime. Il est né d'une femme non mariée. Il a été chassé par les siens. Et puis des hommes de rien se sont rassemblés autour de lui, des pêcheurs, des prostituées, des collecteurs d'impôts. Jephté est vraiment une image de Christ dans ce passage-là, à la différence que Jésus était parfait. Et il est venu donc entouré de ces hommes de rien, parce qu'il est venu non pas pour ceux qui se croient en bonne santé, mais pour ceux qui se savent malades et qui viennent à Dieu avouer leurs fautes, se repentir. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile, que Christ est venu pour nous, dans nos fautes, dans toutes les fois où on abandonne Dieu pour nous tourner vers d'autres passions, d'autres choses, et où on remplace Dieu dans notre cœur par toutes sortes d'autres choses. Christ a payé pour tout cela. Et il a fait toutes ces choses-là pour que tous ceux qui se repentent et qui croient en lui puissent échapper à la colère de Dieu et avoir la vie éternelle. Et j'espère que c'est un message qui peut nous encourager ce matin, nous rappeler finalement ce que Dieu attend de nous au quotidien, une repentance sincère, un aveu de nos péchés, un appel au pardon, un abandon de ces passions qui traînent encore dans notre cœur, et que nous puissions renouveler notre confiance en Christ. Je vous invite à ce qu'on chante un chant pour nous rappeler l'histoire de l'amour de Christ dans les recueils.